Le professeur de droit Éric Deschmaker, invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence ce midi. La semaine dernière, il a donné une conférence qui a suscité grand nombre de réactions après son analyse sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Le Congrès lance une étude pour définir la structure d'une participation citoyenne au sein de l'institution. Objectif, concilier les décisions des élus avec les aspirations citoyennes. L'Anzac Day, commémoré aujourd'hui en Australie, en Nouvelle-Zélande, mais aussi en Calédonie. Une cérémonie était organisée ce matin à Nouméa. Ça roule pour le SMTU qui se dit satisfait du résultat des deux derniers mois du réseau Taneo. De 1000 validations au redémarrage il y a deux mois, les usagers sont désormais 4000 par jour à emprunter les transports. Ce week-end, vous pourrez retrouver le Salon des seniors à la Maison des artisans de Nouville, mais aussi déguster une part de l'omelette géante de Dumbéa. Tout notre programme festif est à retrouver dans ce journal. Bonsoir à tous. Et c'est le professeur de droit Éric Deschmaker qui était ce midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Cet universitaire qui enseigne à Melbourne s'intéresse de près à la Nouvelle-Calédonie et il ne cache pas son souhait qu'elle reste française, Jean-François Baudin.
La semaine dernière, Éric Deschmaker avait donné à Nouméa une conférence sur le thème de la situation ainsi créée qui a suscité un certain nombre de commentaires et de réactions parce qu'il développe une analyse originale, voire provocatrice, sur la Nouvelle-Calédonie. Il est ainsi très sévère envers l'accord de Nouméa, qu'il accuse d'avoir créé un proto-État qui va vers l'indépendance. Ce sont les trois non au référendum qui ont interrompu ce processus et il estime qu'aujourd'hui, il est encore possible de faire demi-tour.
Oui, on peut faire demi-tour. Rien n'est jamais définitif, même pas la fumeuse irréversibilité constitutionnellement garantie, douze syllabes dont aime se gargariser M. Chauchat. C'est-à-dire ce que le constituant a fait, le constituant peut toujours le défaire. Nous ne sommes pas liés par ce qu'une autre génération a décidé. En revanche, ce que j'essaye d'expliquer, c'est qu'il faut faire demi-tour. C'est-à-dire que vous avez une sorte de gros navire qui va dans une direction qui est la sortie du territoire. Vous pouvez arrêter les moteurs, il va continuer à dériver. Donc, il continue à dériver vers la sortie. Donc, si vous voulez l'empêcher, ben, il n'y a pas d'autre choix que de faire demi-tour. Alors, ce n'est pas facile. Ça ne veut pas nécessairement dire tout défaire, évidemment, mais ça veut dire changer de logiciel et de logique. Ne plus accepter cette logique de l'accord de Nouméa, qui est encore une fois de créer progressivement un État qui, en se développant, deviendra indépendant et naturellement partira.
Et alors que le ministre des Outre-mer est attendu d'ici quelques jours sur le territoire, Éric Deschmaker a été interrogé sur le projet d'accord politique proposé par Manuel Valls. Pour lui, le document de l'État, c'est l'accord de Nouméa en pire.
Sa logique est très claire et c'est exactement la même logique que celle du FLNKS. C'est-à-dire, tout ce qui, depuis 35 ans, a été concédé au camp de l'indépendance, on va dire, reste acquis par principe, c'est ce que certains appelleraient le socle de l'accord de Nouméa, et ben le reste, c'est-à-dire ce qui est encore français, alors ça, on va en discuter. Et donc, on va couper la poire en deux, puisque l'île est coupée en deux moitiés. C'est-à-dire, dans la logique de M. Valls, on ne peut pas aller tout de suite à l'indépendance parce que les trois non, mais c'est à peu près la seule chose que ça empêche dans son logiciel.
Le professeur de droit conteste la poursuite de la trajectoire envisagée par le document de l'État avec de nouveaux transferts de compétences et le maintien du mécano institutionnel. Il répète par ailleurs sa conviction que, contrairement à ce que tout le monde affirme, il n'y a pas de droit inaliénable à l'autodétermination.
Il n'y a pas de droit unilatéral à la sécession de la République, d'aucune partie de la République, et encore moins du nébuleux peuple de Nouvelle-Calédonie ou peuple calédonien qui est une construction purement administrative. C'est un ramassis administratif de gens qui peuvent cocher une des cases leur permettant de s'inscrire sur une liste électorale. Je suis en un sens heureux que le gouvernement insiste parce qu'il va perdre cette bataille. Et là, on va voir, je crois, à la fois la médiocrité intellectuelle, mais aussi surtout le degré d'idéologie des gens qui sont aux manettes et qui d'ailleurs, enfin, c'est une génération qui était déjà là dans le cabinet de Louis Le Pensec. C'est-à-dire, ça nous ramène quand même assez longtemps en arrière.
Éric Deschmaker se méfie des termes comme « loi fondamentale » et « compétence de la compétence » qui, selon lui, risquent de faire l'objet d'interprétations. Et il lui a été demandé si, selon lui, un accord est possible lors de la venue de Manuel Valls.
Possible, donc je n'ai pas d'informations particulières, mais si vous regardez le texte et ses logiques, on peut amender un texte, mais on ne peut pas, avec des amendements, changer sa structure fondamentale, sa direction, sa logique. Quand je lis cela, je me dis que c'est un texte qui ne peut pas être accepté à la fois par les vrais indépendantistes et par les vrais partisans de la France. Donc ce qu'il reste, c'est ceux qui ne croient à rien. Mais j'ai une photo, enfin une poignée de main entre juste Monsieur Valls et Monsieur Gomes, ce serait un petit peu chétif sur la photo. De toute façon, la logique de l'accord, c'est que tous le signent. Donc je vois assez mal comment ça pourrait être le cas.
Difficile qu'un accord soit possible, mais selon lui, un accord est-il souhaitable ?
Là, le sentiment que j'ai vraiment à écouter les gens et à leur parler, c'est qu'on a affaire à un transfert, au sens psychologique du terme. C'est-à-dire qu'on investit l'accord ou l'espoir d'un accord de vertus quasiment magiques. C'est-à-dire l'accord devient synonyme de retour à la paix, à la prospérité, une forme de stabilité, la fin de ces souffrances. Mais aucun accord juridique sur le nombre de points de citoyenneté pour devenir calédonien ou sur le taux d'imposition, l'assiette fiscale à Koné ou au Mont d'Or ne va ramener la paix civile. Ça, c'est quelque chose qui se joue dans les cœurs et dans les esprits. Et je ne crois même pas que ça ramènera nécessairement une visibilité. C'est un argument que j'entends beaucoup. Oui, Eric, je vois bien que ça n'est pas très appétissant, mais au moins on saura pour X années où on va. Mais ça, ça suppose que les gens tiennent leur parole. Et ça suppose que M. Bichou, dont la libération fera sans doute partie du package global, se sente tenu par la parole, que ce soit la sienne ou celle de quelqu'un d'autre.
Une interview d'Éric Deschmaker qui sera rediffusée dimanche soir, juste après notre édition de 17h45. Elle est aussi disponible en audio et vidéo sur notre site internet.
Notez ces deux rendez-vous politiques du côté indépendantiste. Demain, le FLNKS réunit une convention à la tribu de Wao à Yaté. Il dressera un bilan des discussions engagées jusqu'à ce jour et notamment les dernières réunions en visioconférence avec le ministre des Outre-mer. Cette convention doit aussi permettre de déterminer les objectifs, les propositions et la posture du FLNKS à l'occasion de la visite de Manuel Valls attendue sur le territoire mardi prochain. De son côté, l'UPM réunit demain un comité central à la tribu de Unjoavo. L'ordre du jour sera essentiellement consacré aux négociations sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, fait savoir son président Victor Tutugoro. Une séance supplémentaire pour la conférence sociale et fiscale organisée par le gouvernement et plus particulièrement par Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge de l'économie. Elle réunit depuis mardi les partenaires sociaux. Son but est de dégager des pistes pour une réforme sociale et fiscale en profondeur qui répondent aux enjeux de relance et de développement de l'économie. L'emploi a été au cœur des débats mardi, la compétitivité et le pouvoir d'achat mercredi. Hier, les participants ont planché sur la réforme fiscale. Ce matin, les participants ont dressé une synthèse de leurs travaux à huis clos et ils ont décidé de se retrouver une dernière fois lundi matin pour finaliser leurs travaux. Le Congrès de Nouvelle-Calédonie lance une étude sur la démocratie participative. Dès aujourd'hui, les Calédoniens sont invités à donner leur avis et à proposer des idées pour élaborer une structure dédiée à la voix des citoyens au sein même du Congrès. L'institution souhaite laisser une plus grande place aux Calédoniens et faire du Congrès un lieu de dialogue et d'innovation démocratique après avoir constaté un besoin d'écoute de la part de la population. Les explications de la présidente du Congrès de Nouvelle-Calédonie, Velma Falaeo.
Il y a une crise de la démocratie, mais qui n'est pas propre à la Nouvelle-Calédonie, qu'on ressent en fait au niveau international. Et la crise de mai dernier a montré qu'il y a quand même une fracture entre les citoyens, les institutions et les élus. Et là, c'est comment on rapproche le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, qui est la première institution, comment on essaie de créer un lien direct avec les citoyens. Ce qu'il faut retenir, c'est la volonté en fait de rapprocher les citoyens à la prise de décision. Donc au sein du Congrès, il y aurait un espace qui serait réservé à cela. Vraiment, j'encourage l'ensemble des citoyens à y participer.
Cette structure permettrait aux citoyens de formuler des propositions de politique publique qui seraient directement soumises aux élus. Mais avant d'en arriver là, il faut d'abord définir la configuration de cette participation citoyenne. La consultation publique est en ligne pour une durée de 3 semaines, jusqu'au vendredi 16 mai inclus. Le questionnaire anonyme est consultable sur le site congrès-consultation.nc. En parallèle, des ateliers de réflexion ont débuté ce mois-ci, dont un à Bouraille qui a réuni près de 100 participants. Ce matin, les élus de l'Assemblée de la Province Nord se sont retrouvés en séance publique à Connay pour examiner 34 délibérations, essentiellement des attributions de subventions, des participations financières et des dotations de fonctionnement pour plusieurs établissements scolaires. Et le Sénat coutumier a formulé aujourd'hui une déclaration solennelle sur les leçons de l'histoire et ce qu'il appelle la vision autochtone de l'avenir institutionnel de la Kanaky Nouvelle-Calédonie. Déclaration faite à l'occasion du 11e anniversaire de la Charte du peuple kanak. Face aux conséquences sociales, économiques et culturelles de la crise actuelle, les autorités coutumières insistent sur l'urgence, je cite, de reconstruire le pays dans le respect de la dignité du peuple kanak, des citoyens et du processus de décolonisation prévu par l'accord de Nouméa. Fin de citation.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Notre question du jour, l'unité médico-judiciaire de proximité qui vient d'être inaugurée au Médipôle, est-elle, selon vous, un outil efficace pour lutter contre les violences conjugales et intrafamiliales? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Et la réponse à notre question d'hier, 54% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS estime que ce n'est pas le bon moment pour lancer une polémique sur le permis de conduire calédonien. Ils sont 46% à penser à l'inverse que c'est le bon moment. 17h57, première pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité en Calédonie. A tout de suite.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas à pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite d'info soir, Léana Colombo.
Et commémoration ce matin de l'Anzac Day, les consulats généraux d'Australie et de Nouvelle-Zélande organisaient une cérémonie dite du lever du jour dans l'enceinte de la caserne Gallipas-Bosque pour célébrer le 110e anniversaire du débarquement du corps expéditionnaire Anzac à Gallipoli en Turquie. C'était le 25 avril 1915 au cœur de la Première Guerre mondiale, Jean-François Bonin.
Oui, la bataille des Dardanelles est le premier fait d'armes majeur des forces australiennes et néo-zélandaises. Il est profondément ancré dans l'identité nationale des deux pays voisins de la Calédonie. Et ce matin, dans sa prise de parole, Annelise Young, la consul générale d'Australie en Calédonie, que vous avez entendu dans le journal de la mi-journée, a rendu hommage à tous ces soldats du bout du monde tombés au champ d'honneur. La nouvelle consul générale de Nouvelle-Zélande, Marie Thurston, a tenu quant à elle à insister sur la notion du devoir de mémoire.
C'est le jour qui marque les commémorations pour les soldats qui sont tombés dans la Première Guerre mondiale. C'est ça l'origine de la date, parce que c'est une bataille en Turquie. Et c'était un désastre pour nous, mais ça a vraiment marqué le début de notre personnalité internationale et l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Mais maintenant, le jour est commémoré en tant que cérémonie pour tous qui sont morts dans les combats et puis pour les soldats qui continuent à faire ce travail. Et on voit ici, à Nouméa, il y a beaucoup de soldats qui sont ici pour l'exercice de la Croix du Sud.
Lors de cette terrible bataille, 3500 soldats néo-zélandais, 7600 Australiens ont trouvé la mort, présents pour participer à l'exercice Croix du Sud qui se déroule depuis lundi. Le capitaine Mark Seroy de la marine australienne, il tenait à honorer la mémoire de ces soldats des antipodes qui ont donné leur vie il y a 110 ans.
Chaque année, le 25 d'avril, nous nous souvenons du courage et le sacrifice des Australiens qui ont débarqué l'aube sur la côte d'Anzac. Nous honorons la mémoire de plus de 103 000 Australiens qui ont donné leur vie au service de notre nation dans les conflits, les opérations de maintien de la paix, les opérations humanitaires, ainsi que ceux qui sont blessés au cours de leur service. C'est très important pour moi. C'est important parce que on est avec d'autres pays qu'on est allé à la guerre où on a fait des opérations avec, puis c'est pour ça qu'on est ici ensemble, pour opérationner ensemble pour la paix dans la région.
Présent également lors de cette cérémonie dite du lever du jour, le général de division Yann Latil, le commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie.
Pour moi, être présent aujourd'hui à l'organisation de cette cérémonie, c'est un vrai honneur et je le fais avec beaucoup de sympathie pour nos camarades australiens et néo-zélandais. On célèbre la création d'une entité qui est le corps australio-néo-zélandais qui s'est solidifié au cours de la Première Guerre mondiale, mais c'est aussi d'une certaine manière la création de l'esprit de ces deux nations. Donc la symbolique est assez forte. Et on le fait ici en Nouvelle-Calédonie au cours d'un exercice qui implique aussi ces nations. Un exercice qui concerne tout le Pacifique, l'exercice Croix du Sud.
C'est Stanislas Alfonsi, le secrétaire général du Haut Commissariat, qui représentait l'État pour cette cérémonie.
C'est une des traditions qu'il faut faire vivre. C'est une occasion de nous rassembler. C'est un moment de mémoire, un moment de souvenir qui permet finalement au fil du temps, dans le cadre d'une chaîne de mémoire, de transmettre le souvenir de nos anciens et de le vivre, de le revivre nous-mêmes et puis de le transmettre aux jeunes générations. Vous avez vu qu'il y avait notamment des scolaires qui participaient à la cérémonie, c'était très émouvant. C'est donc un moment de rassemblement qui célèbre le moment où la France notamment, la Nouvelle-Zélande, l'Australie ont été unis parce que la nécessité l'imposait. Donc pour nous c'est toujours une cérémonie à la fois très émouvante et un rituel auquel nous nous prêtons très très volontiers.
Des jeunes ont également assisté à cette cérémonie, des élèves de l'école Frédéric-sur-Lot, du collège Beaudoux et du collège de Dumbéa-sur-Mer, mais aussi de la classe défense de la section internationale du lycée La Pérouse. Cette cérémonie du lever du jour s'est donc déroulée en présence des autorités civiles et militaires. Présent sur le rang protocolaire, le président du gouvernement Alcide Ponga, la présidente du congrès Velma Falaeo, le député Nicolas Metzdorf, le sénateur Georges Naturel, le maire de Nouméa Sonia Lagarde, mais aussi le général de division Mathéos, commandant la gendarmerie.
Et l'Anzac Day a été commémoré dans de nombreux états de la région et particulièrement en Australie et en Nouvelle-Zélande. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Ces dawn services ou cérémonies du point du jour ont lieu juste avant l'aube afin de coïncider avec l'heure du débarquement des troupes du corps expéditionnaire Anzac à Gallipoli. Tant en Australie qu'en Nouvelle-Zélande et dans de nombreux états insulaires du Pacifique Sud, des centaines de milliers de personnes se sont donc rassemblées à l'aube pour honorer la mémoire de leurs morts, non seulement de la Grande Guerre, mais aussi des conflits armés qui ont eu lieu depuis. En Nouvelle-Zélande, ces commémorations ont surtout eu pour cadre les mémoriaux militaires d'Auckland et de Wellington. Le premier ministre kiwi, Chris Luxon, assistera quant à lui à un service religieux à Gallipoli. Son homologue australien, Anthony Albanese, s'est pour sa part rendu aux cérémonies de l'Anzac Day qui ont eu pour cadre le mémorial militaire de Canberra. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Les fréquentations sur le réseau Taneo sont en hausse 2 mois après la reprise du trafic dans l'agglomération. Le syndicat mixte des transports urbains dresse un bilan de son activité. Et Charlotte Coulson, on peut dire que les résultats sont assez encourageants.
Avec un budget annuel de fonctionnement divisé par 4, le SMTU a dû complètement réaménager son offre pour assurer une reprise. Elle s'est finalement faite le 10 février 2025, il y a presque 2 mois. Actuellement, 8 lignes desservent l'ensemble de l'agglomération, seulement aux heures de pointe, le matin et le soir. Les Calédoniens se sont peu à peu adaptés à ces changements. Comme l'explique Hugues Georgelin, le directeur général adjoint du SMTU, la fréquentation, timide au départ, augmente de manière progressive.
J'utilise un terme scolaire, on disait qu'on pourrait avoir les encouragements, pour dire ça comme ça, puisqu'on tend vers nos objectifs de 2025, même si on ne les atteint pas encore, puisque ça ne fait qu'un mois et demi qu'on a démarré. Nos objectifs de fréquentation moyenne, alors quand je dis moyenne, il faut vraiment prendre tous les jours concernés, donc du lundi au samedi, le samedi étant avec une fréquentation beaucoup moins importante, donc ça fait forcément baisser la moyenne. On est sur une fréquentation moyenne d'un tout petit peu plus de 4000 personnes jour, là où nous avons un objectif à 5000. Vous voyez, donc on n'est plus très très loin, donc c'est plutôt encourageant. Derrière, on est parti donc d'un redémarrage au 10 février, avec à peu près 1000 validations jour. Voilà, on arrive à 4000 au bout d'un mois et demi. On espère que la tendance se poursuivra au cours de l'année.
Le SMTU constate également un retour des usagers réguliers, puisque l'utilisation du Pass Taneo est en hausse significative. Elle représente maintenant 90% du trafic. Et qui dit augmentation de la fréquentation, dit aussi augmentation des recettes. Le mois de mars a totalisé environ 35 millions de francs. C'est en dessous de l'objectif fixé à 40 millions, mais tout de même satisfaisant, car le syndicat mixte des transports urbains a bien besoin de ces recettes pour penser à l'évolution du réseau. Pour l'instant, il est viable, mais les financements manquent pour augmenter le nombre de lignes ou même pour diminuer les tarifs.
Pour le moment, le réseau est viable d'un point de vue budgétaire et globalement entre les recettes, les différentes contributions, les taxes affectées et bien sûr les dépenses afférentes. Là-dessus, oui, je confirme que le budget est équilibré. C'est sûr que la question notamment de la tarification ou de la découpe est une question importante. Aujourd'hui, pour l'instant, il y a toujours le tarif unique à 500 francs, quel que soit le trajet effectué. Toute évolution, malheureusement, engendre forcément des coûts et des financements d'une manière ou d'une autre. Donc oui, on a plein de nouvelles dessertes, de nouvelles lignes, de dessertes de quartier ou d'amélioration des amplitudes horaires qui sont dans nos cartons, mais qui pour le moment ne permettent pas d'être mises en œuvre faute de financement. La seule variable qui nous permettrait de pouvoir envisager de nouvelles dessertes et d'améliorer l'offre, c'est uniquement la recette commerciale aujourd'hui.
Et toujours concernant les financements, le SMTU espère recevoir une enveloppe de l'État qui concernerait uniquement la remise en état de la ligne de Néobus. Le syndicat dresse également un état des lieux de la sécurité sur l'ensemble du réseau. Depuis la remise en service des bus, seuls deux incidents ont été répertoriés. Il s'agissait de caillassage. La sécurité a notamment été améliorée grâce à la suppression des points de vente à bord et la disparition du roulage en soirée.
Et du côté des transports aériens, un avion de la compagnie iFly pour remplacer les appareils Air Calin le temps d'une maintenance programmée sur ces deux A330neo. Ce remplacement permettra d'assurer la continuité du programme des vols du 1er juillet au 7 septembre, tout en maintenant un haut niveau de sécurité et de confort pour les passagers, affirme la compagnie. Sont concernés par ces changements les rotations de Nouméa en direction de Singapour, Papeete et Sydney. Réalisées tous les 20 à 24 mois, cette opération de maintenance prévoit un contrôle complet de la structure de l'avion, des systèmes, du train d'atterrissage ainsi que des équipements intérieurs. Et je vous rappelle également qu'une messe à la mémoire du pape François est célébrée depuis tout à l'heure, 18h, en la cathédrale de Nouméa. Elle est présidée par l'archevêque de Nouméa, Monseigneur Sioné Poé. Il est 18h, passé de 8 minutes. Dernière pause avant de voir le programme festif, mais aussi le programme sportif du week-end.
L'association Les Petits Pansements du Cœur mène campagne pour que les rêves des enfants malades chroniques hospitalisés se réalisent. Jusqu'au 21 mai, envoyez don au 36 77 233 francs le SMS. La somme sera intégralement reversée à l'association. En partenariat avec Atto SMS Média et l'OPT, objectif 14 000 SMS. Calédoniens du Nord, des îles et du Sud, ces enfants sont les vôtres, sont les nôtres. Nous sommes tous concernés. Faisons-les rêver.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal, Léana Colombo.
Le Salon des seniors accueille le public depuis ce matin à la Maison des artisans à Nouville. Pour cette 4e édition, les Calédoniens peuvent retrouver de nombreux stands allant du bien vieillir au loisir en passant par les finances. Des animations sont également proposées avec des danses, des concerts, des ateliers d'écriture ou encore des conférences. En bref, tout est fait pour accompagner les plus de 60 ans, des anciens mis à l'honneur lors de l'inauguration par Thierry Santa, le membre du gouvernement en charge des questions liées au handicap et à la dépendance.
Je considère qu'ils ont un rôle et une place particulière dans notre société. Et notre responsabilité à nous, c'est de faire en sorte justement qu'ils aient la vie la plus agréable possible après leur vie d'activité, on va dire, et surtout pour avoir une fin de vie, encore une fois, la plus agréable possible. Le gouvernement les accompagne. Nous avons plusieurs projets en cours, dont le projet de la Maison calédonienne de l'autonomie, qui sera un outil à leur service de simplification, puisqu'il s'agit d'un guichet unique avec une présence territoriale au bénéfice de tous nos aînés, quel que soit leur lieu de résidence en Nouvelle-Calédonie.
Notez que le Salon des seniors accueille le public jusqu'à demain à la Maison des artisans à Nouville de 8h à 17h. Et malgré un week-end qui s'annonce maussade, les Calédoniens pourront sortir de chez eux et pourquoi pas assister à la 41e édition de la fête de Dumbéa, Charlotte Coulson.
Et oui, c'est le retour de la célèbre omelette géante qui se tient tous les ans au Parc Fayard. Mais la fête de Dumbéa, ce n'est pas que ça. Il y aura au programme de ce week-end festif de nombreux spectacles de danse, de chant, de la cuisine bien sûr, avec une spécialité cette année puisque c'est un double anniversaire qui sera célébré, celui du jumelage de Dumbéa avec Lifou et Fréjus dans l'Hexagone. Les deux communes seront donc mises à l'honneur, comme l'explique Sébastien Oldrinet, chargé de mission rayonnement et identité dumbéenne.
On va avoir un programme chargé puisque cette année ce sont les 25 ans de jumelage avec Lifou et les 40 ans de jumelage avec Fréjus. Donc on a décidé de mettre à l'honneur ces partenariats, ces liens d'amitié. Alors Fréjus ne pourra pas être là cette année, donc on pensera fort à eux. Il y aura quand même une partie de l'exposition qui est dédiée à ces deux villes qui les mettra à l'honneur. Mais c'est Lifou qui prendra une partie de la programmation et des festivités en charge sur la journée du samedi notamment. Sur le samedi, bien sûr, c'est pas les seuls moments forts de la journée. À 15h, on aura la dégustation juste avant la fabrication, mais on aura la dégustation d'une omelette sucrée faite par les enfants de la confrérie de l'omelette géante. Et 16h, on a le gâteau d'anniversaire qui célébrera les deux jumelages qui seront servis au niveau de l'espace Dumbéa et moi, qui est un nouvel espace qu'on a inauguré l'année dernière et qui cette année prend encore de l'importance sur la fête de la ville.
Et à ne pas manquer la dégustation du bougna géant le samedi à midi. Le dimanche, c'est bien sûr l'omelette géante qui sera distribuée à partir de midi également. Le travail de préparation est rigoureux. Il a débuté il y a plusieurs semaines déjà grâce aux bénévoles de la confrérie de l'omelette géante dont Reine Chenot est présidente.
Le week-end dernier, nous avons préparé la poêle. La poêle est déjà prête. Donc nettoyer, mise à blanc, la poêle des petits cagous donc pour le samedi après-midi est aussi prête. Les œufs sont commandés, enfin tout est nickel, il n'y a plus qu'à faire. Alors en chiffres, c'est 250 plateaux de 30 œufs qui seront cassés. Il y a 25 kilos de saucissons de cerf, il y a 5 kilos d'oignons verts. Et puis bon, le sel, le poivre, l'huile, comme d'habitude, bien entendu. L'omelette géante, bien sûr, c'est dimanche matin. Il y a un jeu, c'est-à-dire que dans une part d'omelette, il va y avoir des petits œufs en pierre qui vont donner lieu à des lots qui nous sont gentiment servis par Hercalin, Air Calédonie et Betticcio. Il y a un voyage à Paris, pour une personne bien sûr. Hein. Voyage Air Calédonie sur l'Ifou, Betticcio sur l'Ifou et une destination île Loyauté au choix.
Et la fête de la ville de Dumbéa, c'est de 9h à 17h30, samedi et dimanche, au Parc Fayard. L'entrée et le parking sont gratuits.
Et dans le reste de l'actualité festive du week-end, les Calédoniens seront appelés à faire preuve de générosité. Le Lions Club International organise une nouvelle action caritative, Ma Maison, ouvrira ses portes demain après-midi, Charlotte.
Oui, l'occasion de venir déguster une paella préparée par les bénévoles de l'association, sur place ou à emporter. Les bénéfices seront bien sûr reversés aux petites sœurs des pauvres. Ils servent à financer les travaux de rénovation de Ma Maison. Des explications de sœur Maria-Anne, mère supérieure des Petites Sœurs des Pauvres.
On invite les publics de venir voir un peu la maison, mais aussi pour partager un paella avec des boissons et en vente des choses faites par les personnes âgées, des colliers, des chapelets, des petits sacs et tout ça faites par les personnes âgées. Tous les bénéfices vont pour le bien de la maison, pour du travaux que nous avons à faire, des tickets pour la paella et pour la boisson, incompris, c'est 3 500. Et si c'est possible de venir avant, acheter des tickets pour qu'on ait idée combien attendre. Parce que si on ne sait pas combien de personnes qui vont venir, c'est un peu compliqué. Donc, si les tickets sont à vente, à l'accueil de notre maison.
Et il est conseillé d'aller sur place à Ma Maison pour réserver votre paella. C'est au 18 rue des Frères Marmoiton au Faubourg Blanchot.
Et dans un autre registre, la FOL organise ce dimanche une journée de la non-violence éducative. Centre programme de la matinée, de nombreux ateliers gratuits destinés aux futurs parents ou aux familles avec de tout petits. L'après-midi sera consacré à l'éducation des enfants de plus de 3 ans. La journée commence à 8h45. Et non loin de là, du chant choral sera proposé par le chœur heures de chambre tout le week-end, Charlotte.
Le thème choisi par la chef de chœur Anna Rochelle est les rêves d'amour. Les choristes du chœur de chambre vous attendront demain à 18h en l'église Saint-Jean-Baptiste de la Vallée des Colons et à la même heure le dimanche 27 avril en l'église du Vœu à Lanzvata.
Allez, passons à l'actualité sportive et nous allons feuilleter avec vous, Jean-François Baudin, l'agenda sport du week-end en métropole et dans le monde. On commence avec du football et la 31e journée du championnat de France de Ligue 1.
Avec demain un match avancé entre le Paris Saint-Germain qui recevra Nice au Parc des Princes. Les autres matchs se joueront dimanche et lundi matin. Dimanche, on suivra Strasbourg-Saint-Etienne, Le Havre-Monaco, Lyon-Rennes. Et lundi matin, 5 matchs au programme. Angers-Lille, Nantes-Toulouse, Montpellier-Reims, Lens-Auxerre et Marseille-Brest. Du football également chez les dames avec lundi matin pour nous les demi-finales retour de la Ligue des Champions. Chelsea recevra le FC Barcelone et Lyon accueillera Arsenal. Au match aller, les Lyonnais s'étaient imposés 2-1. Il y a également du rugby ce week-end avec la 22e journée de Top 14. Les matchs seront à suivre dimanche et lundi matin pour nous. Dimanche, on suivra Toulouse-Castres, Clermont-Lyon, Bayonne-Pau, Montpellier-Perpignan, Vannes-Toulon et Bordeaux-Bègles-La Rochelle. Et lundi matin, à suivre le derby francilien entre le Racing 92 et le Stade français. Toujours concernant le rugby, à ne pas manquer ce week-end la dernière journée du tournoi des 6 nations féminin avec un match qui prendra l'allure d'une finale entre l'Angleterre et la France puisque l'équipe qui s'imposera réalisera le grand chelem. Au chapitre sport mécanique, il faudra suivre sur deux roues le Grand Prix moto d'Espagne, ce sera sur le circuit de Jerez et en deux quatre roues la quatrième manche du championnat du monde des rallyes. Les pilotes sont aux îles Canaries. Enfin du cyclisme avec la suite des grandes classiques de la saison après Paris-Roubaix il y a 8 jours et la Flèche Wallonne mercredi. Les coureurs prendront le départ dans la nuit de dimanche à lundi de Liège-Bastogne-Liège. Au menu pour les coureurs, 252 km.
Et Jean-François, voyons à présent, quels seront les rendez-vous du week-end en Calédonie?
On va commencer avec l'apnée. Et ce soir et demain, le championnat de Nouvelle-Calédonie à la piscine Jacques Mouren du Wentoro. Ce soir, c'est l'épreuve de dynamique sans palme. Et demain, à partir de 17h, à suivre le statique et le dynamique avec palme. Du judo également, avec demain les interclubs à Boulari au Mont d'Or. Demain toujours, il y aura de la voile avec un challenge dériveur et un challenge J70 à Koné. À suivre demain toujours un tournoi de touch rugby. Début des matchs à partir de 13h au stade Yoshida. Dimanche, le sport mécanique sera à l'honneur avec la première manche du championnat de Calédonie de karting. Les pilotes se retrouveront sur la piste de Nakutakwa à Dumbéa. Et enfin à Bouloupari, à Deroux, à suivre la première manche de course sur prairie de motocross.
Merci Jean-François Baudin. 18h18, on passe tout de suite à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, c'est avec vous, Nicolas.
Oui, tout d'abord, vigilance jaune, forte pluie et orage pour des averses soutenues, parfois orageuses, concernant Thio, Yaté, le Mont d'Or, l'île des Pins et les Loyautés, jusqu'en milieu de nuit. Alors, cette nuit, le ciel sera encore très nuageux, mais des éclaircies s'inviteront, en particulier sur le nord du territoire. Sur la côte ouest, les ondées se feront plus rares. Des averses fortes, parfois orageuses, resteront fréquentes sur le sud de la Grande Terre et les Loyautés, surtout en début de nuit. Le vent soufflera de nord à nord-ouest. Il sera compris entre 5 et 10 nœuds, localement 10 à 15 nœuds sur les Loyautés et les pointes nord et sud. En fin de nuit, le vent s'orientera au secteur ouest sur la pointe sud et l'île des Pins. Puis entre 10 et 15 nœuds, les minimales varieront de 21 à 25 degrés. Demain matin, le temps s'améliorera rapidement. Le soleil fera son retour sur une grande partie de la Grande Terre. Sur les Loyautés, la pointe nord et la côte est, les averses circuleront encore tout en baissant en intensité. Le vent sera souvent faible, de secteur nord à nord-ouest dominant. Il sera encore localement de secteur ouest sur le sud du territoire et vers l'île des Pins, Léana.